Bien, nous allons accueillir maintenant Christophe Carassou. Alors aujourd'hui, je vous présente. Aujourd'hui, Christophe a 43 ans, toulousain. Il découvre le théâtre à l'âge de 9 ans, dans le cadre des ateliers proposés par le théâtre municipal de son quartier, le théâtre Jules Julien. Bien plus tard, et après avoir suivi les cours d'interprétation de l'école Charles Dullin à Paris, entre 2001 et 2003, il intègre la toute première promotion de l'EPSAD, École du Nord, à Lille, sous la direction de Stuart Saïdeux. À sa sortie de l'école en 2006, il est directement engagé dans le collectif d'acteurs permanents du Théâtre du Nord. Ce premier contrat professionnel lance véritablement sa carrière et lui permet depuis d'enchaîner les créations en tant qu'interprète. En parallèle de son métier de comédien, il devient également professeur de théâtre à partir de 2015. Christophe va vous présenter une lecture théâtralisée du prologue de La mémoire des vaincus. Je lui laisse la place.
La vie est un curieux parcours, plein d'embûches et de découvertes, de surprises et de déconvenues. On vient, on va. On rencontre des gens que l'on oublie, qui disparaissent, d'autres qui s'insinuent, qui ne vous lâchent plus, qui s'accrochent à vous comme des tiques, et dont on sait bien que l'on ne pourra s'en débarrasser qu'en disparaissant soi-même, à tout jamais, sans espoir de retour. Ils sont si pesants, parfois, que l'on a envie de devancer l'heure. Pourquoi cela et pas ceci égaré en chemin et dont le souvenir vous obsède? Certains sont morts, du moins on le dit, mais ils ne sont pas morts pour vous. Des prétendus morts nous accompagnent, vivent avec nous, en nous, plus que tant de vivants que l'on côtoie chaque jour avec indifférence. Parfois, on enterre un peu vite ce que l'on a perdu de vue et dont l'âge avancé nous fait croire à leur effacement définitif. Et il arrive qu'ils ressortent de l'ombre comme des fantômes et reprennent leur place dans notre existence. Une place qu'il n'aurait jamais dû quitter. C'est le cas de l'homme dont je vais vous raconter la vie. Sans lui, je ne serais pas ce que je suis. Lorsque je le rencontrais pour la première fois, j'avais 23 ans. Il en comptait 48. 48 ans, ce n'est pas bien vieux, mais lui était déjà très vieux. Je veux dire qu'il avait vécu de telles aventures, croisé tant de gens illustres, légendaires, joué lui-même un tel rôle dans l'histoire, qu'il semblait hors du temps. Le temps, les temps nouveaux de l'après-guerre, d'ailleurs, le rejetaient. Emprisonné de 1939 à 1945 et n'ayant de ce fait participé ni au conflit de la résistance et de la collaboration, ni à la ruée sur les pouvoirs vacants à la libération, il apparaissait alors tout à fait anachronique. Le seul gagne-pain qu'il avait pu trouver accentuait sa désuétude. Il tenait un étal de bouquiniste en bord de Seine, quai de la Tournelle, non loin de ce qui s'appelait encore la Halle aux Vins. Le voir ainsi, accoté au parapet près de ses boîtes à livres, sa haute taille un peu cassée, l'air toujours ironique, ne me surprenait pas outre mesure. J'avais commencé par être son client, un client qui ignorait à quel singulier bouquiniste il s'adressait, un client qui passait plus de temps à feuilleter les livres sous l'auvent des couvercles de zinc qu'à les acheter. Les boîtes de celui qui allait devenir pour moi plus qu'un ami, un père spirituel dont l'influence me marquerait à jamais, ne ressemblaient pas aux autres. Elles ne contenaient ni publications érotiques sous cellophane, ni romans policiers, n'étaient pas encombrées de pseudo-gravures anciennes, ni d'enveloppes de collection de timbres, mais débordaient d'une abondance de brochures, de revues et même de journaux jaunis qui constituaient une extraordinaire collection pour l'amateur d'histoire syndicale, politique et sociale de la première moitié du siècle. Les livres de ce singulier libraire, eux aussi fort rares, certains même dédicacés, n'en coûtaient pas plus cher pour cela. Car les amateurs d'autographes ne recherchaient pas encore les signatures de Gide, de Malraux, d'Alain, de Giono. Mais moi, elle me fascinait. Et c'est sans doute ces longs moments passés à rêver sur d'aussi illustres paraphes et plus encore ma propension à acquérir des brochures politiques invendables qui attirèrent l'attention du bouquiniste sur son jeune habitué. Me voyant compter mes sous, il me faisait des prix. Un jour, il me dit de cette voix gouailleuse, parigote, un tantinet bourru, que je retrouverai inchangé dans son extrême vieillesse. « Tu m'embouches un coin, mon gars, à ton âge de t'intéresser à toute cette drouille. Je te regarde comme ça depuis des mois et tu ne fléchis pas. Hein. Qu'est-ce qui peut bien t'attirer là-dedans? Vraiment, tu m'intrigues. D'où viens-tu? Qu'attends-tu de la vie ?» Je bafouillais je ne sais quoi. Il m'en demandait trop. Il haussa les épaules, parut agacé, et me dit d'un ton peu aimable « Ce que je t'en dis, c'est pour ton bien. Tu devrais pas t'attarder à toutes ces vieilleries. Ça te mènera nulle part. Si je les ai ressorties, c'est qu'elles font l'affaire de quelques copains qui veulent bien se souvenir de moi. » Puis, se radoucissant, « Il faut que je gagne ma croûte. Enfin, pourquoi dire « il faut » Personne ne m'oblige. J'ai échoué là, comme ces vieux rafiaux qui ne ressortent plus de la vase du port. Je liquide mon fonds. Après, on verra. » Sa mauvaise humeur revint. « Allez, déguerpis, c'est pas pour toi. Tu ferais mieux de t'intéresser aux filles. Je veux plus te voir, tu m'agaces. Allez, fous le camp !» Des mois passèrent sans que je revienne quai de la Tournelle. Le bouquiniste m'avait moins effrayé que vexé. Je l'évitais. En passant sur l'autre trottoir du côté des immeubles, je le voyais le plus souvent entouré d'hommes de son âge ou plus vieux. Il tenait de longs conciliabules. Certains étaient bizarrement accoutrés avec des pèlerines, des foulards extravagants, des bonnets de laine tricotés. Il m'a paru alors que ces hommes qui entouraient mon grand escogriffe bourru sortaient aussi d'un autre temps. Cette similitude entre les familiers du bouquiniste et la marchandise désuète de ses boîtes me fit mieux comprendre l'anomalie de mon intrusion dans un âge qui n'était pas le mien. Mais j'avais bien le droit de me passionner pour l'histoire politique du début du siècle. Cette conviction me donna le courage de refouiller dans des boîtes qui, après tout, n'appartenaient pas à un club privé. j'en ressortis triomphalement l'histoire de la Commune de 1871 par Lissa Garay, dans l'édition Dentu, datée 1897. Et ne voulant pas être en reste avec l'agressivité du bouquiniste, je lui demandais d'un air revêche « C'est combien ce bouquin-là hein? Vous me ferez bien un prix, je suis un vieux client. » Il feignit de ne pas me reconnaître. Prit le livre dans ses mains maigres, le feuilleta, hocha la tête d'un air très triste. Lissa Garay, c'est un ouvrage qui n'a pas de prix. Bon, puisque t'as le culot de revenir, je te le donne. Non, ne discute pas, c'est un cadeau. Un cadeau sans prix. Tu es anard, fallait le dire. Anard ? Je débarquais de ma province où mon éducation se fit plutôt dans le giron de l'Église catholique, apostolique et romaine. Mais depuis que je commençais à réfléchir, mon attirance allait surtout aux hérétiques, aux réprouvés de tout acabit, aux marginaux, aux hors-la-loi, aux irrespectueux, voire aux anormaux et aux fous. Anard ? Que voulait-il dire ? Je connaissais plus l'histoire du socialisme, des socialismes et de tous leurs avatars, que celle de l'anarchie. Voyant mon embarras, le bouquiniste reprit. « Non, bien sûr, t'es pas anard. Ce n'est plus à la mode. Ça ne l'a d'ailleurs jamais été. Tu n'es pas coco tout de même. Hein? Sinon, que chercherais-tu dans mes boîtes? Ou alors, c'est que tu serais maso. Pourquoi voulez-vous que je sois embrigadé dans quelque chose ? Je m'intéresse à la politique, pas aux partis politiques. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Ben, je fais ce que je peux et je m'en fiche. Actuellement, je suis manœuvre dans une usine. J'ai toujours été manœuvre, ajoutai-je dans une sorte de défi. Manœuvre, manutentionnaire, débardeur. Je suis petit, mais je suis costaud. Et travailler avec mes muscles me laisse le cerveau vacant. Je peux lire, étudier. Tu lis beaucoup ? J'ai tout lu. Allons, ne te vante pas, hein. Si, j'ai lu tous les petits classiques Larousse par ordre alphabétique. Comme ça, j'étais sûr de ne pas en oublier. Le bouquiniste passa ses mains dans sa chevelure grise, geste qui lui était familier, presque un tic. Il me regarda d'un autre air, où je devinais à la fois de l'étonnement et de l'affection. Il eut envie de me dire quelque chose, mais se contenta de me prendre l'épaule de sa main osseuse et de la serrer à me faire mal. « Reviens quand tu veux, farfouille, cherche mon gars, peut-être finiras-tu par trouver. » C'est ainsi que commencèrent mes relations avec celui dont j'ambitionne aujourd'hui, 40 ans après, de devenir le biographe. Je m'aperçus vite que le même nom se répétait à la fois sur les pages de garde de tous les livres dédicacés qui se trouvaient dans ces boîtes et sur les couvertures de nombreuses brochures que j'achetais. Ce nom était bien sûr le sien. Il bradait sa bibliothèque, son seul avoir. Jeune, il nous semble que tout nous est dû. On ne s'étonne de rien. Aussi, la manière dont cet inconnu illustre entre les deux guerres mondiales et encore entouré d'un grand nombre de fidèles qui faisaient le pied de grue devant ses boîtes, entreprit peu à peu de m'éduquer, m'invita chez lui, à sa table, me présenta ses enfants qui devinrent des copains, m'introduisit chez ses amis, eut en un mot à mon égard l'attitude d'un père vigilant, sévère, possessif, me parut tout à fait naturel et je ne lui en témoignais aucune reconnaissance. Pire, puisque nos relations prirent un tour familial, arriva fatalement le jour où je n'eus de cesse de me dégager de ce père encombrant. 10 ans après notre rencontre, notre amitié buta sur la guerre d'Algérie. Il avait adopté une attitude sans ambiguïté contre l'insurrection algérienne, considérant tout nationalisme comme pernicieux. Celui du FLN ne pouvait échapper à ce qu'il appelait la vérole du pouvoir. Guerre anticoloniale, soit, Il avait toujours été anticolonialiste et avait même subi de la prison pour cela, mais pas pour chasser un pouvoir et le remplacer par un autre, qui peut-être serait pire. Je ne le suivais pas. Je croyais, comme toujours lorsque l'on est jeune, puisqu'il était vieux, que ses idées dataient, que les circonstances d'alors différaient de celles dont il avait fait la cruelle expérience. Je me laissais emporter par un courant très fort et généreux, mais pas moins stupide que celui qui l'entraîna, lui, de l'illégalisme au début du siècle, au totalitarisme étatique. Me voir recommencer ses erreurs le mettait justement en rage. À quoi cela aura-t-il servi ? Tant de misère, tant de suppliciés, tant de victimes qui me crient encore aux oreilles, si toi, à qui j'ai tout dit, à qui j'ai tout montré, retombe dans le même merdier ! À quoi ça sert d'avoir vécu tout ça ? Merde, c'est trop con ! Il y a de quoi se flinguer ! Je le comprends bien, aujourd'hui, la guerre d'Algérie ne fut qu'un prétexte. Ces 10 ans de paternité jalouse me pesaient. J'avais envie de fuir, de vivre ma propre vie. Nous ne nous sommes pas revus pendant 25 ans.
When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends, and some of them are with me. Gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were 3 of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from shadow.
Nous ne nous sommes pas revus pendant 25 ans. Pendant 11 ans, j'ignorais même tout de son existence. J'évitais le quai de la Tournelle. En 1968, il ressortit brusquement comme un diable farceur d'une boîte à malice. Il n'avait que 69 ans, mais les étudiants de la Sorbonne le brandissaient comme un totem. Je le vis apparaître un jour sur l'écran de mon téléviseur, entouré d'une faune juvénile, toujours aussi grand, un peu cassé, ses cheveux devenus entièrement blancs. Je me sentis très gêné de le trouver un peu ridicule. Lorsqu'il se leva et parla devant le micro, entamant un discours que l'on percevait mal dans le tumulte de l'amphithéâtre, j'eus la gorge serrée tellement ce spectacle était pitoyable. Puis tout à coup, sa voix s'enfla. Il retrouva le ton du tribun qu'il avait été dans les années 30, lorsqu'il réussissait à couvrir l'organe pourtant sonore de son contradicteur Maurice Thorez. Comme on dit dans le langage médiatique, il creva soudain l'écran. Un silence invraisemblable se produisit sur les gradins. La caméra montrait la foule des étudiants médusés qui l'écoutaient. Moi-même, j'étais bouche bée. Je ne l'avais jamais vu ainsi puisque je ne l'avais fréquenté que pendant ces années de retrait du monde politique actif. Il devait être semblable, emportant son auditoire de toute sa conviction, de toute son éloquence, lorsqu'il dénonçait devant des foules hostiles l'iniquité des procès de Moscou. Lorsque, au moment de la guerre civile espagnole, il s'employait à lever des volontaires pour la brigade de Durruti. Cher vieil homme, cher grand ami perdu, des larmes me venaient aux yeux. J'aurais dû tenter aussitôt d'aller le rejoindre, mais je restais là, prostré, devant ma télé, fasciné par ces images où, après son discours longuement ovationné, je le vis porté en triomphe par une bande de garçons et de filles qui, en même temps, levaient le poing et chantaient l'International. Je m'en voulais de ne pas me trouver parmi eux. Et je leur en voulais à eux qui me l'enlevaient, qui se l'appropriaient, sachant bien qu'il s'agissait d'un malentendu et que, une fois de plus, ils seraient pris en otage. Après cet ultime éclat, mon camarade, mon frère, car dans ses faiblesses, dans son utopie, dans sa propension à se laisser duper, il n'était plus un père, mais un autre moi-même, disparut une nouvelle fois et si complètement que je le crus mort. Personne ne parlait de lui, ni dans la presse, ni même dans les livres d'histoire où le vedettariat fait aussi la loi, hein. Dans les années 50, son nom figurait encore dans nombre d'ouvrages et le Petit Larousse illustré lui accordait même une notice. Quand dans une nouvelle édition de ce dictionnaire, sa biographie sauta, remplacée par celle d'un personnage plus actuel, je le fréquentais encore et je me souviens qu'il accueillit cette nouvelle en riant de bon cœur, comme s'il s'agissait d'une farce. Mais lorsqu'il s'aperçut que dans ses mémoires, Trotsky ne le citait même pas, lorsqu'en 1948, aux obsèques de Paul Delassalle, il vit avec stupeur qu'aucune délégation ouvrière n'accompagnait celui qui avait consacré sa vie à l'émancipation des travailleurs, lorsqu'il s'aperçut que l'autre compagnon de sa jeunesse, Pierre Monnat, tombait comme lui et Delassalle dans le plus total oubli, il repoussa les portes sur le monde et s'enferma dans une solitude hautaine. Les hommes du pouvoir, de tous les pouvoirs qu'il ne cessa de combattre, finissaient par lui faire la peau. Ils l'avaient emprisonné, certains tentèrent de le tuer, mais il paraissait increvable, comme cet esprit libertaire qu'il incarnait si bien. Faute de l'égorger, on l'escamotait, on le rayait, gommait. Il devenait ainsi, pour un homme d'action, et de quelles actions, plus mort que mort. Il assistait vivant à ses propres obsèques intellectuelles. Ce qui ne voulait pas dire que les idées pour lesquelles il s'était battu mouraient avec lui. Bien au contraire, jamais elles n'avaient été elle n'avait été aussi en vogue. Toute sa vie en butte aux persécutions, suscitant le scandale, puni de prison, il avait prôné des choses comme le pacifisme, l'antistalinisme, la critique moderne du marxisme, l'avortement légal, l'amour libre, le naturisme, le nudisme, l'écologisme, et aujourd'hui, tous ces thèmes réprouvés devenaient normaux. La société les récupérait, se les appropriait, sans se soucier de ceux qui s'étaient sacrifiés pour les voir aboutir. On ne le citait jamais. Pas une ligne dans Glucksmann, dans Foucault. On ne prête qu'aux riches, c'est-à-dire à ceux dont l'histoire veut bien se souvenir. Les autres, les comparses, les francs-tireurs, les vaincus, n'intéressent personne. Au début des années 80, au journal télévisé de 20 heures, comme je regardais distraitement les images d'une manifestation contre une centrale nucléaire, un peu blasée par ces assauts hebdomadaires entre contestataires et CRS, qui finissent par observer de telles règles que l'on croirait assister parfois à un match de foot, je vis soudain du côté des écologistes se former comme une procession. Cette masse d'hommes et de femmes en cortège, scandant des slogans, portait à bout de bras une sorte de mannequin. Lorsque les premiers rangs arrivèrent en gros plan devant la caméra, je m'aperçus qu'il ne s'agissait pas d'un mannequin, mais d'un vieillard ratatiné comme une momie péruvienne. Cette foule le brandissait face au CRS, indifférent, retranchés derrière la barrière de leur bouclier. Pendant quelques secondes, la caméra s'attarda sur le visage du vieillard et je reconnus celui que j'avais perdu depuis tant d'années. Il paraissait beaucoup moins grand, menu, le visage osseux, la mâchoire tassée, sans doute par l'absence de dents, une bouche comme celle du Voltaire de Houdon. Mais ses yeux noirs restaient étonnamment vifs. C'est par ses yeux que je l'identifiais en un instant. Des yeux qui regardaient le téléspectateur avec un mépris, une violence, une passion insoutenable. Bien sûr, ce regard, happé par la caméra, s'adressait aux forces de l'ordre. Les forces de l'ordre. Ces mots, force et ordre, représentaient tout ce qu'il haïssait le plus. J'avais l'impression que les manifestants se servaient du vieil anard comme d'une bombe et qu'ils allaient le jeter sur le bloc compact des flics carapassonnés, que le grand ami de ma jeunesse allait finir sa vie en beauté, en éclat, c'est le cas de le dire, en foudroyant la maréchaussée et la centrale nucléaire et les récepteurs de télévision. Mais le journal télévisé passa à autre chose. Un défilé de mode chez Cardin, je crois. Cette fois, c'en était trop. Nous n'allions pas pouvoir continuer à jouer pendant longtemps une partie de cache-cache, étant donné son âge et le mien. Je n'eus pas trop de mal à retrouver sa trace par la voix des écologistes. Il habitait seul dans un petit logement d'HLM du Kremlin Bicêtre. Finir sa vie au Kremlin, comme son vieil ennemi Staline, quel programme ! Mais le Kremlin de Staline n'était autre que le palais des tsars, alors que celui de mon cher vieillard appartenait à la banlieue ouvrière. J'appréhendais beaucoup ces retrouvailles. Allait-il me ficher dehors, m'assommer de réprimandes ? En fait, si je n'étais pas revenu plus tôt vers lui, c'est parce que je redoutais cet affrontement. Se souvenait-il même de moi ? L'immeuble était tout à fait délabré. Boîtes aux lettres fracturées, encombrées d'un amas de prospectus, graffitis sur les murs poussiéreux des couloirs, escaliers obscurs faute de lampes électriques brisées ou dérobées. Puisqu'il était octogénaire et que l'immeuble ne possédait pas d'ascenseur, on lui avait évidemment attribué le logement le plus haut, au quatrième étage. Lorsque je frappais à la porte, mon cœur battait très vite. non pas tant par le fait d'avoir gravi cet escalier hâtivement que par appréhension. On ne revient pas sans risque sur les terres de sa jeunesse. La porte s'ouvrit. Moins grand qu'autrefois, il me dominait quand même d'une tête. Sa maigreur s'était par contre très accentuée, et l'absence de dents et de dentiers lui déformait tout le bas du visage. Il me regarda avec une évidente surprise, me reconnut et me serra dans ses bras. Geste si inattendu que je l'embrassai. Jamais, jadis, nous ne nous laissions aller à de telles effusions qui nous eussent paru grotesques. D'ailleurs, mon vieil ami se reprit très vite, m'entraînant vers une pièce si encombrée de livres que l'on s'y frayait difficilement un passage. « Alors te voilà. C'est pour me dire au revoir. Au revoir et merci. Tu arrives à point, je m'apprêtais à m'en aller.
Où vas-tu ?
Où je vais ? Mais dans le néant, mon vieux. Où veux-tu que j'aille ? Voilà 30 ans que l'on m'y pousse et je me cramponne comme un con au bord de la tombe. Bah, j'ai peur de glisser. S'il ne me poussait pas, sans doute que je me serais jeté au trou moi-même, depuis longtemps. » Avec soulagement. Mais comme ils me poussent, tu me connais, je résiste, histoire de les emmerder.
Le tu et le vous. Lorsque j'avais 20 ans, ils me tutoyaient et je le vous voyais. On ne tutoyait pas les vieux lorsque l'on était jeune en ce temps-là. Mais entre un sexagénaire et un octogénaire, employer une différence de conjugaison eût été ridicule. J'adoptais d'emblée le tutoiement et cela lui parut naturel. Les jeunes écolos le tutoyaient certainement.
Eh bien, t'as pas liquidé tous tes livres dans les boîtes des quais ? Ça croule de papier imprimé ici.
Bah, je sais pas où les foutre. Un jour, le plancher va craquer.
Non, c'est vrai, y a pas de plancher.
Seulement une dalle de béton. Du solide, hein ?
Heureusement. Figure-toi que tous mes copains clament les uns après les autres et qu'ils me lèguent leur bibliothèque. Comme si j'étais la mémoire du monde. Enfin, de notre petit monde. Comme si j'étais la mémoire du monde. Cette phrase me donna d'emblée l'idée de ce livre. Mon vieil ami retrouvé gardait en lui une mémoire qui allait se perdre. Non seulement sa propre mémoire, mais celle de ses compagnons de lutte, celle de toute une histoire marginale, parfois secrète. En racontant sa vie, c'est presque un siècle de pensées et d'actions maudites que l'on pouvait tirer à tout jamais de l'oubli. Je n'osais lui parler de ce projet lors de notre première rencontre, mais plus j'y pensais, plus ce livre me paraissait indispensable. Chaque semaine, je retournais au Kremlin Bicêtre. Mon vieil ami m'attendait. Il conservait dans son extrême vieillesse son côté bourru, goguenard. Mais il ne cachait plus une tendresse que jadis cette rudesse masquait. Je m'inquiétais de ses ressources, de ce qu'il mangeait. Mais il repoussait ses considérations terre à terre, m'assurant qu'il ne manquait de rien, que l'on s'occupait de lui, et qu'il n'avalait que de la bouillie n'ayant plus de dents. Il préférait me parler de la masse des documents recueillis qu'il classait soigneusement dans de grandes enveloppes confectionnées avec de vieux journaux. Un jour, je cassai le morceau. « Que vas-tu faire de tout ce dépôt ? Ce n'est pas seulement le tien, mais celui de tes camarades. » Restitue tout cela à ceux qui viendront après nous. Il faut qu'ils sachent que l'histoire enseignée dans les écoles, à l'université, n'est pas toute l'histoire de notre temps. Tu devrais écrire ta vie.
Des fariboles ! Ça n'intéresserait personne. Je suis pas une vedette de cinéma, hein. Je ne suis rien, rien du tout. Tu le sais bien, je n'existe plus. Et tous ces documents que je range soigneusement, parce qu'il faut bien se désengourdir les doigts et le cerveau, tous ces documents parlent de gens que personne ne connaît plus. L'histoire a été accaparée par des acteurs qui sont des imposteurs. Et elle est écrite par d'autres imposteurs. On n'y peut rien.
Écoute-moi, je connais beaucoup de choses de ta vie. Je n'ai rien oublié de ce que tu m'as dit jadis, de ce que tu m'as jadis raconté, de ce que m'ont dit De La Salle, Monat, Le Coin. J'ai amassé beaucoup de copies, moi aussi. Si tu veux, rédigeons le livre ensemble. Mais c'est toi qui le signeras.
Ah, ça non, hein, jamais de la vie. Toutes les autobiographies sont fausses. On est toujours trop complaisant avec soi-même.
Alors laisse-moi écrire ta biographie. Je t'interrogerai, tu m'aideras.
Un biographe maintenant, oh, il ne manquait plus que ça. Si j'avais su que je risquais d'hériter d'un biographe, j'aurais renoncé à avoir une vie.
Mais tu as une vie. Et quelle vie ?
Fiche-moi la paix avec tes conneries.
Peu à peu, une très grande intimité revint entre nous. Notre familiarité se fortifia par la présence parfois de ses enfants. Tous approuvaient mon projet et l'aîné, Germinal, s'offrit de mettre à ma disposition ses souvenirs sur la guerre civile espagnole. Mon idée prenait corps. Mariette et Louis, les deux enfants de sa première femme, me poussaient eux aussi à ne pas abandonner. Que dis-je, sa première femme ? Et Flora alors, l'unique, l'inoubliable, et Galina, la russe ! Sa première femme légale, disons, si l'on peut parler de légalité pour quelqu'un qui se targua toujours d'illégalisme. Allons, si je commence déjà à m'embrouiller avec ces femmes et ces enfants, qu'en sera-t-il lorsque j'aborderai les événements ? Oui, les événements. Tant d'événements. Et tant de femmes. Et quelques enfants. Ne pas perdre tout ça. Ne rien perdre. Les livres meurent aussi. Mais ils durent plus longtemps que les hommes. On se les passe de main en main. Comme la flamme des Jeux Olympiques, portée de relais en relais par les coureurs. Mon ami, mon père, mon grand aîné, tu n'as pas glissé entièrement dans le néant puisque ce livre de ta vie existe. Bien que personne ne saura qu'il s'agit de toi, puisque tu n'as accepté de m'aider à rédiger cette biographie qu'à la seule condition que ton vrai nom n'apparaisse nulle part. Tu voulais bien m'aider à sauver une mémoire, mais pas un nom. La mémoire, disais-tu, appartient au peuple. Le nom n'est qu'un simulacre. Le nom n'est qu'un titre de propriété dérisoire. Maintenant que tes cendres sont enfermées dans le columbarium du Père Lachaise, non loin de celles de quelques-uns de tes plus proches amis, je peux donc publier la biographie de celui que j'appelle Fred Barthélémy.
Allez, allez, c'est bon mon gars, tu m'as convaincu. Puisque tu y tiens tant, eh bien je serai la mémoire des vaincus.
Dans la matrocina, les oreilles jetées
chantant, réveillons la matlovchina, la disperse dans le vent. Réveillons la matlovchina, la disperse dans le vent. Matlovchina, matlovchina, mémoire de nos partisans qui combattaient en Ukraine. Contre les rouges et les blancs qui combattent en Ukraine, contre les rouges et les blancs. Matlovchina, Matlovchina, mémoire de nos partisans qui voulaient chasser d'Ukraine à jamais tous les tyrans qui voulaient. C'est l'Ukraine, à jamais tous les tyrans. Matlovchina, Matlovchina, tes drapeaux sont noirs dans les vents. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang.
Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Je tenais juste à remercier déjà tout le monde pour l'organisation de ce colloque. Et un grand merci à Thierry Maricourt, sans qui je n'aurais pas rencontré Michel Ragon. Je l'ai découvert grâce à Thierry et j'en suis très heureux parce que ça a été un énorme coup de cœur. Merci.